Nous sommes toujours dans la série sur Philippiens. En fait, c'est ce message et il y a encore un message qui reste pour terminer le livre de lettres aux Philippiens. Notre attitude envers l'argent est une bonne indication de notre maturité en Jésus-Christ. Où plaçons notre confiance? Ça, c'est pour moi, ce n'est pas pour donner, mais... Où plaçons notre confiance? En l'argent ou en Dieu et tout ce qu'il promet? Cette question se trouve au cœur de notre texte biblique ce matin. Donc, je vais lire. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire à Thessalonique déjà et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons. Mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant de l'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le point principal de ce passage se trouve ici au verset 19, qui est en rouge. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et ça, c'est une promesse. Ce verset est facile à lire, mais croyons-nous vraiment en ce qu'il promet? Ça, c'est la question. Et si vous ne retenez rien d'autre de ce que je dis ce matin, d'accord, je vais dire pas mal de choses, mais si vous oubliez tout cela, écoutez cette promesse et laissez-la prendre racine dans votre cœur. Est-ce que nous croyons à cette promesse? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. La vérité de cet passage, ou cette promesse, est enseignée partout dans les Écritures. Bon, je vous donne quelques exemples. Regarde, dans l'Ancien Testament, juste le psaume que nous connaissons tous, qui est cher à nous tous, mais psaume 23, il commence comment? L'Éternel est mon berger, je vais manquer un peu de choses. C'est la version de 21. Non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est une promesse de notre Père. Matthieu 6, 31 à 34, Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qu'il est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se suffira de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Ce sont les promesses de notre Seigneur. Alors, regardez de nouveau le verset 19, la promesse qui est là. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Comme c'est vrai, nous sommes capables de donner à Dieu avec générosité et sacrifice. Nous sommes libres d'utiliser notre argent pour servir et bénir Dieu et les autres. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, c'est ta parole. Ici, nous avons une promesse que nous pouvons tenir, que nous pouvons regarder. Et nous savons, Seigneur, que tu es là pour s'occuper de nous si nous sommes tes enfants. Donc, merci, Seigneur. Aide-nous à vraiment écouter ce que tu as pour nous ce matin. Aide-moi de m'exprimer en français et partager ce message que tu m'as donné pour ton peuple. Je prie en ton nom. Amen. Bon, la première chose que je veux regarder, Dieu, nous voulons donner à Dieu avec un esprit de générosité. Il y a deux éléments importants à noter dans cette promesse que nous voyons ici au verset 19. Premièrement, selon cette promesse, Dieu pourvoira à combien de nos besoins, de vos besoins? Combien? Qu'est-ce que le texte dit?
100%.
Tout, 100%, tout. C'est ça. Il va pouvoir à tous nos besoins. Ça, c'est une promesse. Nous pouvons compter sur lui de prendre soin de nous. Mais notez bien que le texte ne dit pas que Dieu pourvoira à tout ce que nous demandons ou ce que nous voulons. Il dit bien il va pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Il y a une différence et vous, qui est là. Et c'était important de le noter. C'est Dieu qui détermine ce qui est nécessaire ou pas. Le comment et le quand dépendent de sa sagesse. Dieu fait tout au bon moment et de la bonne manière. S'il juge bon de ne pas donner quelque chose que nous réclamons dans la prière, ou que nous devons avoir confiance que c'est pour notre bien. Il a certainement une leçon à nous apprendre. D'accord? Donc, il est là pour nous aider dans tous nos besoins, mais pas forcément dans tout ce que nous réclamons, que nous voulons. C'est lui qui a la sagesse pour nous. Il y a une deuxième chose à remarquer. Remarquez comment Dieu pourvoit à nos besoins. Le texte dit qu'il pourvoira conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. J'aime bien comment la version Semer le dit. Il dit qu'il va pouvoir selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Alors, la question que je vous pose, j'ai une question aussi, Sylvain. Et donc, Sylvain, ne me montre pas la réponse à ta question au début de bon. Les deux, toujours j'appelle Sylvain, Stéphane, Sylvain, désolé. Mais j'ai une question pour vous. À quel point Dieu est-il riche? Comment? À quel point Dieu est-il riche? Sa richesse est sans fin, n'est-ce pas? Infinie. Donc, Dieu a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir à nos besoins. Et nous pouvons compter sur lui. Alors, si c'est vrai que Dieu pourvoira toujours à nos besoins, et si c'est vrai que les richesses de Dieu sont toujours infinies pour le faire, nous pouvons lui donner sans crainte de manquer de quoi que ce soit. Pensez à deux histoires dans la parole de Dieu. Encore que je tire une histoire dans l'Ancien Testament et je tire une histoire du Nouveau Testament. La première histoire, c'est l'histoire qui se trouve dans le livre des rois. Et c'est l'histoire d'Élie et la femme veuve pendant une période de famine en Israël. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder avec moi en 1 Rois chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Bon, il y avait une famine. Et à un certain moment, Dieu parle au prophète Élie pour lui dire que, au verset 8, il dit, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire. » Donc, il dit que, « Vas-y, j'ai préparé quelque chose. » Il a dit plus tard dans le même verset, « J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Donc, le prophète, il est parti pour voir cette femme. Au verset 11, il parle avec cette femme et il dit que apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Donc, pour regarder, écouter la réponse de cette dame au verset 12, elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile. Donc, il dit que, en fait, je n'ai rien. Et elle continue de dire que, bon, c'est notre dernier repas. Et après, c'est fini pour moi et mon fils. Nous allons mourir. Nous n'avons rien. Bon, mais verset 13, Élie lui dit, « N'aie pas peur. Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le à moi. » Donc, nous voyons que finalement, elle fait ce que le prophète a dit. Et donc, nous voyons le résultat au verset 15 et 16. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans le cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire de l'Élie. Donc, vous voyez ce qui se passe ici. Dieu demande de donner. Elle avait besoin. Elle a donné conformément à la parole de Dieu. Et chaque jour, quand elle a besoin, il y a encore de farine dans le pot, encore de huile dans la cruche pour donner et pour préparer. Dieu était là pour combler à ses besoins. Et donc, elle était capable de donner. Malgré le fait qu'il y avait un peu, elle a mis sa confiance en Dieu. Et Dieu était là pour combler tout ce... Et il a dit que jusqu'à ce que la famine était terminée et le problème était résolu. Donc, Dieu était là pour pouvoir à ses besoins. Et Dieu va faire la même chose pour nous. Dans le Nouveau Testament, en Marc chapitre 6, versets 30 et 44, nous avons l'histoire de la multiplication des pains pour nourrir une foule de 5000 hommes. Et ce qui me... Bon, si vous avez eu encore vos Bibles, vous pouvez regarder avec moi au chapitre Marc chapitre 6. J'aime bien Jésus. Et le disciple vient et je dis que Jésus, la foule... elle a faim, donc il faut les renvoyer pour chercher de quoi manger. Et Jésus, il dit que non, c'est vous qui, il faut que vous donnez quelque chose pour le nourrir. Mais il regarde cette foule et dit, ce n'est pas possible. Donc, verset 37, ils disent que, Seigneur, faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Ça, c'était le salaire de 8 mois. Donc, peut-être il se regarde et dit, ah là là, c'est nous qui vont payer un tel grand montant pour nourrir cette... Il n'avait pas vraiment confiance en Dieu et que Dieu peut répondre à leur besoin, leur donner ce qui était nécessaire pour payer tout cela. Ils avaient le souci de prendre tout ce qu'ils ont économisé pour donner aux autres. Mais Dieu, Jésus a dit que non, seulement, qu'est-ce que vous avez? Nous avons en fait 2 poissons et 5 pains. Il a dit, vas-y, continuez. Donc, donnez, distribuez. Donc, avec le peu qu'ils avaient, ils ont commencé de distribuer à la foule. Et qu'est-ce que nous avons vu dans ce miracle? Tant qu'il y avait besoin, ils continuaient à remplir Dieu les paniers. Et donc, ils ont donné et donné et donné. Et quand le texte dit, je pense, verset 42, « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Donc, comme je disais, tant qu'il y avait besoin, ils continuaient à remplir les paniers. Dieu était là. Donc, nous pouvons donner avec générosité et Dieu va continuer de remplir tous nos besoins, prendre soin de nous. Donc, ces deux histoires nous enseignent que si nous donnons à Dieu, il va combler tous nos besoins. Je vais être clair que je n'enseigne pas ici la théologie de la prospérité. Bon, en fait, dans la il y a plein de choses dans cette théologie qui est fausse. La richesse, ils disent que la richesse est un signe que Dieu est avec nous et que nous sommes bénis. Sans richesse veut dire que nous ne sommes pas vraiment spirituels et forts dans la foi. Mais si ça c'est vrai, Jésus n'était pas vraiment quelqu'un qui était spirituel ni fort dans la foi. Parce qu'il menait une vie assez simple et pauvre. Mais il avait toujours ce qu'il avait besoin, ce dont il avait besoin de son Père. Donc, dans la théologie de la prospérité, il voit l'argent donné à Dieu un peu comme une transaction commerciale. La doctrine de la prospérité dit que si je donne à Dieu, il est obligé de me donner en retour avec intérêt. Par exemple, si je mets 5 euros dans l'offrande, voilà, peut-être j'achète un peu 2 jours de santé ou peut-être les bonnes notes à l'école. Si je mets 50 euros dans le panier, peut-être il va me donner un nouveau téléphone ou quelque chose comme ça. Ou si je dis 500 euros dans l'offrande, wow, peut-être maintenant c'est une nouvelle voiture, je ne sais pas. Dans la théologie de la prospérité, le regard est fixé sur nous-mêmes. Mais dans la théologie de Paul, ce qu'il enseigne ici, le regard est fixé sur Dieu. Nous ne donnons pas pour avoir quelque chose, mais plutôt pour bénir Dieu et bénir les autres. Nous avons confiance qu'il va prendre soin de nous de la façon qu'il juge bon. Parfois, c'est par l'abondance. Parfois, c'est par la souffrance. C'est lui qui détermine. Mais en toute façon, il va s'occuper de nous. Et ça, c'est ce qui est bon. Donc, comment nous pouvons appliquer cette promesse à nos vies actuelles? Je veux vous encourager à apprendre à donner votre dîme. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était obligé de donner la dîme ou le 10% de leur revenu à l'Éternel et à son œuvre. La dîme était une pratique, une discipline spirituelle et personnelle que Dieu avait promis d'honorer. Manquer de donner la dîme était considéré par Dieu comme un vol puisqu'elle lui appartenait. C'est vrai que nous ne sommes plus dans l'époque de l'Ancien Testament qui fonctionnait selon la loi de la dîme. Nous sommes dans l'époque du Nouveau Testament qui fonctionne selon la loi de la liberté et de l'amour. Donc personne ne viendra à votre domicile et frappera sur la porte pour demander votre dîme. Vous demandez une copie de votre déclaration des revenus. Sauf que Sylvain, je vais lui demander. L'apôtre Paul exprime bien l'attitude à avoir dans le Nouveau Testament, dans ce verset. Ça, c'est notre attitude. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Regardez ce qu'il dit. Il dit ici à satisfaire à tous vos besoins. Ça, c'est la promesse que nous avons vue en Philippiens chapitre 4, verset 19. Il va pouvoir. Et alors, nous pouvons alors donner. Nous avons l'abondance, nous pouvons donner pour les œuvres de Dieu. Ça, c'est l'attitude du Nouveau Testament, de nouvelle alliance en Jésus-Christ. Cependant, ma conviction personnelle, ma conviction est que même si nous ne sommes plus sous la loi de l'Ancien Testament, le principe de la dîme nous donne un très bon modèle à suivre. Le principe du Nouveau Testament est que 100% de ce que je suis et ce que j'ai appartient à Dieu. Donc, si je ne peux pas donner à Dieu la dîme, le 10% de mes revenus, il faut que je me demande si l'autre 90% que j'ai appartient vraiment à Dieu. C'est pourquoi je suis convaincu que le principe de la dîme dans l'Ancien Testament nous donne un très bon modèle à suivre. De plus, donner à Dieu votre dîme est un excellent moyen pour grandir dans votre foi chrétienne. Donc, regardez encore le verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons. C'est Paul qui parle à l'église, les Philippiens qui est là. Dans cette église, ce n'est pas que je recherche les dons, et ils étaient très généreux, c'était eux qui toujours étaient là pour s'occuper de lui et ses besoins, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Ça, c'est ce qu'ils cherchent, le fruit éternel dans cette vie, mais aussi qui va durer pendant les années. Donc, donner à Dieu produira un fruit éternel. La pratique de donner la dîme vous aidera d'abord de grandir dans votre confiance en Dieu. Si je donne ce que j'ai et je vois que toujours le pot de farine est rempli et là la farine est là dans le pot et l'huile est dans la cruche et je donne et c'est toujours rempli, donc je grandis dans ma confiance en Dieu. C'est une grande leçon spirituelle que j'ai vue dans ma vie. Donner ma dîme m'aide à grandir dans ma confiance en Dieu. Aussi, ça vous aide à vous débarrasser de l'esprit de matérialisme et d'égoïsme qui règne dans ce monde. C'est fort. Et nous ne voulons pas que l'argent soit notre Dieu, idole. Donc si je peux lâcher, comment on dit comme ça? Lâcher prise de mon argent pour ce que Dieu c'est ton argent. Donc je vais être délivré un peu de cet esprit qui règne dans notre monde. Affirmer, aussi ça vous a aidé à affirmer d'une manière très concrète que Jésus est vraiment le Seigneur de votre vie. Ce n'est pas l'argent qui commande dans ma vie, c'est Dieu qui commande dans ma vie. Donc, ça, c'est important. C'est aussi une façon d'investir dans l'éternité et faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. En fait, ça, c'était le message de notre frère Wyman la semaine dernière. Que investir dans l'éternité avec ce que Dieu nous donne. Ça peut nous aider à élargir notre perspective éternelle et à nous rappeler que ce monde n'est pas notre demeure. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce n'est pas mon demeure ici. Il y a un autre qui vient. Et je veux investir et ça élargit. Donner à Dieu, ça peut m'aider d'élargir cette perspective, cette vision. Et finalement, c'est une façon pour bénir les autres, aider les autres et faire plaisir à Dieu. Donner à Dieu aussi, donc donner à Dieu avec un esprit de générosité, mais pas seulement ça, mais aussi donner avec un esprit de sacrifice. Remarquez les termes que Paul utilise ici, au verset 18. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Epaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ces termes qu'il utilise sont les termes qui étaient tirés du système des sacrifices et des offrandes données au tabernacle dans l'époque de l'Ancien Testament. L'implication est que notre façon de donner devrait être marquée aussi par un esprit de sacrifice. C'est comme nous lisons en Hébreux, je le dis tout simplement, Hébreux chapitre 13, verset 16, il nous exhorte, et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donnez à Dieu. Ça va nous demander parfois des sacrifices. L'apôtre Paul dit dans cette lettre de Philippiens, nous avons déjà vu au chapitre 1, verset 29, il dit, en effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Jésus-Christ, mais encore de souffrir pour lui. Nous voyons la même chose au chapitre 3, verset 10. Souffrir pour Jésus fait partie de notre foi en Jésus-Christ. C'est un élément oublié par les prédicateurs de la théologie de la prospérité dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, moi aussi, je dois être prêt à faire des sacrifices dans ma façon de donner, même si parfois je souffre. Je suis marqué par l'exemple de cette église des Philippiens. Et nous voyons en 2 Corinthiens chapitre 8, Paul il fait un commentaire sur cette église. Malgré leur pauvreté extrême, ils ont donné avec un esprit de sacrifice. Donc, regarde. Donc, il parle de l'église de Philippe. Il dit, par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. C'est l'église de la région des Philippiens. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ça, c'est le sacrifice. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé. Ce n'est pas Paul qui a insisté. Ils ont insisté pour dire que nous voulons donner. Ça, c'est le contraire de ce qui se passe normalement. Ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont voulu bénir les saints, les autres. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Quel exemple. Cette église, ils ont compris la promesse de Philippiens 4, 19, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ils étaient libérés de donner avec générosité et, au-delà de générosité, avec sacrifice. Peu d'argent ou beaucoup d'argent n'est pas la question. Donner à Dieu est une question de confiance en Dieu. Et si nous avons confiance que Dieu comblera toujours nos besoins, nous serons libres de donner avec un esprit de sacrifice. Une bonne application de ce principe de donner un esprit de sacrifice et de faire la promesse de la foi. D'abord, notez au verset... je saute quelque chose ici. Verset 18. Je veux avoir cette même attitude que cette église avait. Je veux que ma vie soit une vie qui est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc, ce que je voulais dire est que une bonne façon, une bonne manière de, d'appliquer ce principe et de, d'avoir un esprit de sacrifice et de faire une promesse de foi missionnaire. Pour vous qui sont nouveaux dans l'Église, ça c'est quelque chose, un principe dans l'Alliance de faire façon de faire avancer le royaume de Dieu en envoyant des missionnaires partout. Donc, Stéphane. Monsieur S. Frère S et Frère S. J'ai une pour chaque famille, donc j'espère. Stéphane, désolé. Bon, la promesse de la foi missionnaire, c'est quoi? D'abord, c'est un engagement au-delà de l'offrande dominicale. Ça veut dire que nous donnons nos offrandes à Dieu, la dîme à Dieu, mais c'est quelque chose au-delà. C'est l'esprit de sacrifice. Maintenant, c'est un engagement personnel. C'est une prière entre moi et Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je donne pour faire avancer ton royaume cette année? Et c'est un engagement de la foi parce que c'est pour dire que Seigneur, je n'ai pas ça dans ma poche, en fait, mais je compte sur toi et si tu me donnes, je vais te donner. Donc, c'est un aspect de la foi. Et c'est un engagement libre. Ce n'est pas, il n'y a personne qui va vous demander si vous l'avez fait ou non. C'est seulement entre vous et Dieu. Donc, vous allez trouver dans ce livre, c'est les projets missionnaires, l'implantation d'église et tous les projets différents de l'Alliance ici en France. Et donc, nos dons, nos promesses de la foi missionnaire vont faire avancer ces projets. Vous allez voir vers les dernières deux pages, ici, c'est un formulaire pour la promesse de la foi missionnaire. Et vous voyez là que je m'engage par la foi à participer à l'action missionnaire de l'AECM en France à l'étranger avec la somme mensuelle de et vous pouvez décider si c'est 1 euro par mois ou 5 euros par mois ou plus. Bon, c'est entre vous et Dieu. Mais quelque chose que je vois, donner 5 euros pour faire avancer la mission, ce n'est pas une grande chose. Ça, c'est quelques tasses de café ou un coca, un crème glacée ou je ne sais pas quoi. On peut laisser à côté, c'est un grand sacrifice pour moi de laisser le crème, je ne sais pas, le crème glacée ou quoi. Mais on peut dire que ce qui est important pour moi, ce n'est pas pour deux personnes qui donnent beaucoup, mais la participation de nous tous, de faire une promesse de la foi missionnaire à Dieu et dit que moi je vais donner quelque chose cette année, même si c'est 2 euros par mois pour donner, pour faire avancer la mission. Donc vous voyez, ça c'est, vous remplissez cette partie qui est pour vous, l'autre partie, et notez bien que votre nom ne figure pas dans cette page, donc nous ne savons pas c'était qui a dit. Mais c'est juste pour vous encourager de certaines redevabilités envers les autres, envers Dieu, pour donner ce que est cherché. Et cette année, nous allons faire, je vais parler avec Gabrielle, entre elle et moi, nous allons vraiment travailler sur comment nous pouvons garder ces choses devant vous pendant cette année. Et faire les rapports de ce que nous sommes en train de donner. L'année dernière, nous avons fait bien. Et je veux continuer dans le même esprit pour donner à Dieu. Mais ce qui est important pour moi, pour notre croissance, parce que c'est comme Paul dit dans ce passage, ce n'est pas que je recherche un don, mais c'est pour votre bien, parce que quand nous donnons, ça va faire la croissance spirituelle en nous. Donc, je vous encourage de porter ça à la maison aussi. Prier, c'est pour prier. Il y a les sujets différents. Dans deux semaines, Jean et Joy Viguier vont venir ici pour présenter dans notre culte. Et ça, c'est une bonne chose. C'est un couple missionnaire en Burkina Faso que nous soutenons. Donc, ils vont venir pour faire un rapport de ce que le Seigneur fait parmi eux. Et j'aimerais bien prendre une offrande d'amour pour eux, pour leur donner ce jour-là. Donc, priez, préparez-vous pour donner quelque chose à ce couple qui se donne. Ils vivent dans des conditions qui sont assez difficiles. Les endroits, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Je ne sais pas s'ils ont changé les lieux maintenant ou non, mais pour traduire la Bible dans la langue des personnes qui est dans la tribu où ils se trouvent. Donc, nous voulons les encourager pour donner quelque chose à eux. Mais ça, c'est la mission. Donc, une bonne application de ce principe, donner à Dieu avec sacrifice, c'est de faire une promesse de la foi missionnaire. Bon, ce matin, nous avons considéré une promesse sûre qui se trouve au... avant que je termine. Alors, la question principale que il faut se poser, à quel point suis-je prêt à mettre ma confiance en Dieu pour qu'il me donne au-delà de mon offrande normale afin de soutenir la mission cette année? Donc, la prière, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui pourvois à tous mes besoins avec tant de fidélité. C'est toi qui pourvois aux besoins de la mission au travers de la libéralité de tes enfants. C'est toi que tu t'appartiens. Je ne possède rien, mais je suis l'intendant sur la terre de ce que tu permets que je possède. Je prends la décision de donner tel montant d'argent pour la mission, tout en croyant que tu pourvoiras à mes besoins. Et ça, c'est le passage que nous avons lu tout à l'heure. L'attitude qui convient à tout enfant de Dieu. Donc, nous avons vu ce matin que dans la promesse de Philippiens chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Cette promesse nous libère de donner à Dieu avec un esprit de générosité et de sacrifice. « Puisque Dieu s'occupe de moi, je peux donner aux autres sans me soucier de manquer ce dont j'ai besoin. » Nous avons aussi parlé de deux moyens concrets pour appliquer cette promesse de Paul dans nos vies. D'abord, par la pratique de la dîme et aussi par la promesse de la foi missionnaire. Ça nous donne deux façons concrètes pour appliquer cette promesse. Et bon, si vous voulez en savoir plus sur le thème de donner à Dieu, voici quelques ressources que je vous propose. D'abord, j'ai imprimé 6 copies d'un cours sur ce thème. Donc, si vous voulez, vous pouvez avoir. Je vais le mettre sur la table derrière. S'il n'y a pas assez de copies, vous voulez une copie pour vous, demande-moi et je vais soit envoyer par mail ou imprimer une copie pour vous. Donc, ça, c'est la première ressource. Deuxième, il y a deux très bons livres, La joie de donner et Le principe du trésor. Nathanaël, quand il était là, dans la création de cette église, il a beaucoup utilisé le principe du trésor qui était très édifiant de cette église. Et nous voyons le fruit d'aujourd'hui, que nous avons déjà une grande somme d'argent mis à côté pour acheter un bâtiment. Donc, ces deux livres peuvent vous aider. Troisième moment, ce n'est pas long, c'est 10 minutes peut-être, un message de Florent Verrac qui était très intéressant sur les dîmes et les offrandes. Ce message, avec les notes, sera sur notre site internet. Vous pouvez regarder et cliquer sur le lien pour aller écouter ce message. Et donc, toutes ces notes et ces choses seront sur notre site. Bon, c'est long, je suis désolé, je termine. Seigneur, merci pour cette promesse que l'apôtre Paul nous donne dans ce chapitre, verset 19. Seigneur, que nous vivons selon la promesse que tu vas pourvoir à tous nos besoins. Et avec cette promesse, nous pouvons être donnés avec générosité et sacrifice. Que ça soit vrai de nos vies. Je prie en ton nom, Seigneur. Amen.